Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Jacques Nizin à la technique, Vinciane Colson au micro. Est athée, celui qui nie l'existence de Dieu, de toute divinité en général, celui qui ne croit pas, nous dit le Larousse. Dès la plus haute antiquité, des humains en ont appelé d'autres athées pour la simple raison qu'ils mettaient en doute l'existence de leur Dieu. Et depuis cette époque, on ne compte plus les athées discriminés, emprisonnés, torturés ou tués au nom de cette incroyance. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Comment les athées sont-ils vus? En Belgique, en Italie, en Amérique du Nord, mais aussi dans les pays majoritairement musulmans, nous faisons le point ce soir sur la situation de l'athéisme dans le monde avec nos deux invités. Alors tout d'abord, Patrice Dertevel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes fondateur et secrétaire de l'ABA, donc l'Association Belge des Athées. Et à vos côtés, Nicoletta Cassano, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes collaboratrice scientifique au CIERL, donc le Centre interdisciplinaire d'études des religions et de la laïcité, donc qui dépend de l'ULB. Vous êtes aussi secrétaire de l'ALBI, l'Action laïque belgo-italienne.
Tout à fait.
Alors, l'athéisme dans le monde, c'est le titre d'un ouvrage collaboratif que l'Association Belge des Athées a publié en ce début d'année et que vous avez dirigé, Patrice Dertevel. Alors, pourquoi avoir voulu vous pencher sur cette question donc, de l'athéisme dans le monde?
Pour une raison d'ordre général, c'est un peu tarte à la crème de parler de globalisation, de mondialisation. Il y a un aspect tarte à la crème, effectivement, mais il y a aussi une réalité. Et il faut bien dire que ces sujets hors de l'Europe de l'Ouest ou quelques éléments proches, ne sont pas étudiés du tout. Nous avons plutôt fait œuvre de pionniers, c'est en tout cas l'impression que nous avons eue, et c'est un peu le retour que nous avons eu là en cherchant des auteurs. C'est une œuvre de pionniers et qui nous semble utile pour l'Europe, mais pas seulement pour l'Europe. La question se pose de manière extrêmement diverse selon les continents et parfois même de manière si diverses que nous avons du mal à ramener les choses à nos propres concepts européens.
Et c'est vrai qu'on voit en fait dans l'ouvrage que la situation de l'athéisme dans le monde, ça revêt vraiment une grande diversité. Alors comment est-ce qu'on explique cette diversité? Sous quelle forme finalement l'athéisme se présente dans les différents continents?
Je vais prendre deux grands cas. Prenons le cas de la Tchéquie. La Tchéquie est un pays assez étonnant puisque c'est pratiquement le pays avec la France et les Pays-Bas où il y a le plus d'athées en Europe. 30% d'athées déclarés en Tchéquie. En Tchéquie, ça veut dire la même chose que chez nous, il n'y a aucun problème. Alors, ce qui est très étonnant en Tchéquie, c'est qu'il n'y a pas plus de 20% de la population qui déclare adhérer à une religion, c'est-à-dire une religion chrétienne, protestante dans ce pays-là, ou parfois catholique. Quelle est la cause ? Pas du tout, comme on le dit souvent, la tradition hussite n'a pas percolé, il n'y a pas de fil permanent qui relie la Tchéquie d'aujourd'hui à la Tchéquie d'autres du 15e siècle, il n'y en a pas. En fait, la Tchéquie a vécu un problème qui est très comparable à celui de la Flandre. C'est une des régions d'Europe, comme la Flandre, qui a cru à un moment du 19e siècle, et non sans vraisemblance, elle a cru qu'elle allait perdre sa langue, que sa langue serait renvoyée à l'usage privé, domestique. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une entreprise de germanisation forcée, intense. C'était les structures de l'État, oui, mais elles étaient fortement relayées et appuyées par l'Église catholique. L'Église catholique en Tchéquie a mené une politique de germanisation. Les Tchèques n'en ont pas voulu, ils ont gagné et ils ont sanctionné l'Église catholique, qui est peu suivie aujourd'hui en Tchéquie. Et donc, il y a eu un éloignement de la religion très fort, et spécialement de la catholique, en Tchéquie pour ça. Ça, c'est un cas simple, mais qui montre bien quelque chose qui n'a absolument rien de religieux. La différence avec la Flandre, c'est évidemment qu'en Flandre, et c'est aussi intéressant, les prêtres de base, le bas clergé, a appuyé le nationalisme flamand. La situation là est inversée. Ça, c'est pas très
compliqué.
Effectivement,
là, on voit qu'il y a vraiment des revendications, causes de l'athéisme, en tout cas, qui sont totalement différentes de ce qui peut exister
ici. L'autre cas est plus compliqué. C'est quand on quitte les religions révélées et qu'on passe au domaine asiatique, là, on se rend compte que nos catégories peuvent faire problème. Alors, je vais prendre un cas clair et pas clair. Le cas du Japon. Alors, si on prend au plan mondial la situation où y a-t-il le plus d'athées, le pays deuxième et le premier est compliqué, c'est la Chine. Deuxième, vous arrivez au Japon. Au Japon, vous avez 31% des gens qui se disent athées et pas plus de 16% qui disent j'adhère à une religion. L'ennuyeux, c'est que malgré tout ça, ça ne va pas. Ça ne va pas pourquoi ? Parce que les questions qu'on pose comportent aussi une case « j'ai pas d'avis ». peu suivi en ces matières-là. Dans la plupart des pays, c'est 1, 2 ou 3% maximum. Eh bien, au Japon, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. 23% des Japonais ne veulent pas répondre à la question. Qu'est-ce que ça prouve ? Mais ça prouve qu'ils ne la comprennent pas, qu'ils n'en veulent pas, ne correspondent pas à la situation. Mais là, il y a d'autres difficultés. D'abord, le mot religion, en japonais, il date du 19e siècle. Le mot n'existait pas. Et donc, c'est difficile pour un concept de vivre sans mot. Le mot religion, d'ailleurs, comme Baudouin de Charnue l'a bien montré, n'est pas perpétuel. Les Grecs de l'Antiquité ne connaissent pas le mot religion. Il n'y a pas d'équivalent strict. C'est un mot latin. Il n'y a pas d'équivalent en grec ancien pour dire religion. C'est autre chose. Il y a un mot pour dire culte, si vous voulez. Mais pas religion. Et les Japonais, ben forcément, leurs mots sont très récents pour dire ça. Ils vivent dans une situation religieuse que nous ne comprenons pas. Ils sont ce qu'on appelle éclectiques, en quelque sorte. C'est-à-dire que, selon les circonstances, ils sont shintoïstes, ils sont bouddhistes et même parfois catholiques. Au Japon, c'est fréquent, en tout cas dans les milieux un peu aisés, de faire au mariage un simulacre de mariage catholique.
Donc selon les situations, on choisit un peu sa religion.
C'est ça. Et donc le prêtre en réalité est faux, ce sont des acteurs, mais on fait une cérémonie qui a toutes les apparences catholiques. C'est très compliqué à comprendre pour nous ce genre de situation. En gros, le Japon n'est pas un pays où il y a un sentiment religieux très vibrant, pas du tout. C'est un pays où il subsiste un peu, grosso modo tout le monde participe à un culte des ancêtres. Quelque chose comme ça, mais sans une croyance très forte ni quoi que ce soit. Et on meurt souvent bouddhiste en respectant les normes bouddhistes. À la naissance, c'est plutôt shintoïste, etc. Ça n'a pas une importance fondamentale. C'est un univers différent, mais le Japon, ça n'est pas rien. Toute l'Asie, ça n'est pas rien. Et donc, mieux vaut en tenir compte.
Alors, on voit effectivement qu'il y a des réalités très différentes d'un continent à l'autre et même d'un pays à l'autre. Alors, on va se cibler maintenant peut-être sur l'Europe. Nicoletta Cassano, est-ce que quand on est européen aujourd'hui, est-ce que c'est encore difficile de se déclarer athée?
Disons que si je prends le cas de l'Italie, se déclarer athée en Italie, ça peut entraîner une série de conséquences. Car malgré la société italienne sera de plus en plus sécularisée, être athée agnostique en Italie, et surtout se déclarer en tant que tel, signifie aller contre un facteur identitaire, sinon les facteurs identitaires dominants, c'est-à-dire être catholique. Tandis qu'au niveau civil, être athée en Italie signifie être non-religieux. Et les droits de non-religieux ne sont pas reconnus par la Constitution italienne. Donc, bien sûr, les principes de la laïcité est intégré dans la Constitution et ainsi que la liberté de manifester sa pensée. Mais la relation entre les églises et l'État italien est réglée de manière assez particulière. En effet, il faut se rappeler que le pacte du Latran qui était signé pendant le fascisme et qui règle les rapports entre l'Église catholique et l'État italien était intégré intégralement dans les textes constitutionnels de la Nouvelle République italienne en 1948 et que c'est seulement depuis 30 ans, c'est-à-dire à partir de 1985, que la Constitution italienne reconnaît les droits à d'autres confessions différentes de la catholique d'établir un accord avec l'État. Or, à part les difficultés que ces autres religions reconnues rencontrent dans la pratique pour créer leur espace dans une société dominée depuis toujours par l'Église catholique, il reste le fait que la Constitution italienne ne reconnaît pas à des groupes philosophiques non religieux les droits d'établir un accord avec l'État.
C'est-à-dire que, par exemple, ici, l'association italienne des athées, elle n'est pas reconnue directement par l'État italien.
Tout à fait. Donc, il existe en Italie une association qui représente les athées, les agnostiques et les rationalistes, qui s'appelle Unione degli Atei Agnostici e Rationalisti. Elle existe depuis 1991 et depuis sa création, elle fait demande à l'État italien pour être reconnue. Et cette reconnaissance n'est jamais arrivée. Pourtant, l'UAR, cette union, est reconnue par la Fédération humaniste européenne ainsi que par l'International Humanist and Ethical Union, de la même manière que l'ECAL.
Oui, donc ça veut dire que quand même, aujourd'hui, en Italie, on a les athées sont quand même un peu, enfin, sont toujours discriminés. Il y a des droits qu'ils ne peuvent pas vraiment revendiquer.
C'est-à-dire qu'il n'existait pas une alternative à la religion catholique, notamment dans des cas, dans des passages de vie fondamentales comme une alternative au baptême, au mariage ou alors des funérailles qui ne soient pas religieux forcément. Et Loire mène des batailles en faveur de l'affirmation de tous ces droits des non-croyants et notamment elle est engagée depuis toujours avec un cas très spécifique italien, c'est-à-dire la présence du crucifix dans les écoles publiques. C'est un usage qui remonte lui aussi à l'époque fasciste comme l'époque du pacte du Latran. Mais c'est une lutte sans fin parce que malgré Loire et des simples citoyens aient fait recours à la cour judiciaire italienne, la jurisprudence administrative italienne a rejeté toujours ces requêtes en jugeant la présence des crucifix en tant que symbole du patrimoine culturel italien.
Oui, et même la Cour européenne des droits de l'homme a d'ailleurs confirmé ce jugement, ce qui peut paraître un peu étonnant. C'est-à-dire qu'on est quand même un pays qui se dit laïque, mais où on accepte les crucifix au nom de quoi ? D'une culture
Oui, tout à fait. Du patrimoine culturel italien, tout à fait. Et la Cour des droits de l'homme européen a effectivement donné raison à la jurisprudence administrative italienne en 2011 en jugeant la présence des crucifix dans les classes non contraire aux droits de l'homme.
Oui, donc ça veut dire aussi, Patrice Dertevelle, que dans un pays comme l'Italie, qui est quand même en Europe de l'Ouest, où on a quand même encore des droits des athées qui ne sont pas nécessairement reconnus.
Ah oui, tout à fait. La situation peut varier sensiblement. En Europe de l'Ouest, des risques pénaux, ça n'existe plus, à la condition de bien voir que la Grèce ne fait pas partie de l'Europe de l'Ouest, que les pays orthodoxes en général n'en font pas partie non plus. C'est un autre univers.
Oui, on est encore là aussi dans des cas très
tout
très
à fait, particuliers. Tout à fait. La Grèce est à peu près le seul pays d'Europe à pratiquer couramment des condamnations pour blasphème, et en quantité importante. Chez nous, ça n'est pas le cas, ce qui est toujours curieux, mais j'y suis habitué, je ne m'en formalise plus, c'est que il est très rare qu'on demande à un théologien dans les médias de dire, mais enfin, comment pouvez-vous être catholique, comment pouvez-vous être chrétien, et de lui dire, mais enfin, comment pouvez-vous justifier une chose pareille. Je suis habitué que ça, c'est pas symétrique. On demande normalement à un athée de se justifier, tandis qu'on ne le demande pas à un croyant. Mais je suis habitué, routiné, j'ai des réponses standards à ce genre de choses. Donc, c'est pas très grave, mais c'est comme ça. Ceci étant dit, je crois que la meilleure formule pour faire cesser ça, c'est de répondre, peut-être d'interpeller un peu plus les autres, mais c'est de répondre à ça clairement et couramment. Je crois que c'est ça qu'il faut faire.
Et est-ce que c'est une des raisons qui fait que vous avez créé en Belgique l'association Belge des athées, qui est une association qui est assez récente, puisque vous l'avez créée en 2012. Voilà, c'était aussi pour dire, voilà, nous on a des droits et on en a marre qu'on nous pose tout le temps la question.
Plus ou moins. C'est-à-dire qu'en réalité, nous avons pensé que dans l'action des 300 et quelques associations laïques belges francophones, il y avait une chose très compréhensible, c'est-à-dire le centrage sur ce qu'on appelle la laïcité politique, ou qu'on appelait la laïcité politique, et que le reste était le plus souvent, mais pas toujours, mais le plus souvent trop négligé. Donc notre but, c'est en rien faire le travail que les 300 et quelques associations font et font très bien, mais c'est faire quelque chose de plus spécifique, c'est-à-dire exprimer la visibilité de l'athée, l'accroître, la susciter, faire part de ses réflexions et de ses attitudes. C'est pas forcément la même chose que la laïcité. Nous pensons aussi que dire la laïcité, c'est le respect des opinions de chacun, c'est tout à fait vrai et c'est indispensable, sans quoi je ne pourrais peut-être pas parler. Mais il y a aussi qu'il faut pouvoir dire, eh bien, vous savez, ces coutumes religieuses, ce sont des superstitions qui n'ont quand même aucune valeur intellectuelle et qui sont étonnantes, dérisoires et sans valeur. Ça ne participe pas de ce qu'on appelle généralement le respect. Ben ça, c'est plutôt notre rôle et c'est ça que nous voulons faire.
C'est-à-dire respecter les individus mais pas respecter leurs croyances.
Tout à fait.
Pour résumer. Alors, je vous propose de faire une petite pause musicale avec un artiste qui s'est toujours dit athée mais qui a beaucoup chanté autour de la religion et de cette thématique. On va écouter Georges Brassens avec Le Mécréant.
Est-il en notre temps rien de plus odieux, de plus désespérant que de ne pas croire en Dieu? Faudrait avoir la foi de mon charbonnier, qui est heureux comme un pape et con comme un panier. Mon voisin du dessus, un certain Blaise Pascal, m'a gentiment donné ce conseil amical. Mettez-vous à genoux, priez et implorez, faites semblant de croire et bientôt vous croirez. Je me mis à débiter les rotules à terre, tous les Ave Maria, tous les Pater Noster, dans les rues, les cafés, les trains, les autobus, tous les déprofondis, tous les morbionibus. Sur ces entrefaites-là, trouvant dans les orties une soutane à ma taille, je m'en suis travesti. Et ton suré de frais, ma guitare à la main, vers la foi salvatrice, je me mis en chemin. Je tombais sur un boisseau, punaise de sacristie, me prenant pour un autre en querelle, m'ont dit. Mon père, chantez-nous donc quelques refrains sacrés, quelques saintes chansons dont vous avez le secret. Grattant avec ferveur les cordes sous mes doigts, j'entonnais le gorille avec putain de toi, criant à l'imposteur, aux traîtres, aux papelards, elles veulent me faire subir le supplice d'Abélard. Je vais grossir les rangs des muets du sérail, les belles ne viendront plus se pendre à mon poitrail. Grâce à ma voix coupée, j'aurai la place de choix au milieu des petits chanteurs à la croix de bois. Attirée par le bruit, une dame de charité leur dit: que faites-vous, malheureuse, arrêtez. Il y a tant d'hommes aujourd'hui qui ont un penchant pervers à prendre obstinément Cupidon à l'envers. Tant d'hommes dépourvus de leurs virils appâts, à ceux qui en ont encore ne les enlevons pas. Ces arguments massus firent une grosse impression, on me laissa partir avec des ovations. Mais sur le chemin du ciel, je ne ferai plus un pas, la foi viendra d'elle-même ou elle ne viendra pas. Je n'ai jamais tué, jamais violé non plus, il y a déjà quelque temps que je ne vole plus. Si l'Éternel existe, enfin ne compte-t-il voir, je ne conduis guère plus mal que si j'avais la foi.
C'était donc Georges Brassens avec Le Mécréant. Vous êtes toujours dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. On parle de l'athéisme aujourd'hui et de la situation de l'athéisme dans le monde. Alors, Nicoletta Cassano, on a parlé du cas de l'Italie, où on voit que effectivement les athées ont encore du mal à être reconnus sur la scène nationale. Est-ce que dans les partis, par exemple, certains revendiquent certains droits pour les athées, ou est-ce qu'on est des partis qui sont globalement tous catholiques, qui acceptent cette donnée, voilà, ils sont catholiques par principe, par culture?
Disons que la situation au niveau politique est assez triste, parce qu'effectivement le catholicisme est devenu un bastion qui est protégé par tous les partis politiques italiens, sauf, je dirais, les partis radicaux, qui dans le passé a gagné des luttes en faveur de la laïcité très importantes. C'est grâce à eux qu'on a obtenu les divorces, c'est grâce à eux qu'on a obtenu un petit avancement au niveau de l'avortement, même si l'avortement reste encore un sujet très délicat en Italie parce que normalement c'est reconnu, c'est possible, mais les médecins refusent de pratiquer l'avortement.
Parce qu'il y a une pression sociale des autres médecins ou parce que juste par conviction
Oui, par conviction, il y a sûrement une pression de la culture catholique dominante, ça c'est clair.
Donc, ce qui veut dire que les femmes, concrètement, ont beaucoup de mal à accéder à l'avortement, qui est pourtant reconnu comme un droit en Italie.
Oui, oui, tout à fait.
Est-ce qu'il y a d'autres droits qui, d'ailleurs, ne sont soit pas reconnus, ou soit ont beaucoup de mal à être appliqués à cause de cette importance du catholicisme ?
Belle euthanasie, ça aussi c'était une grande bataille en Italie. Dans les dernières années, il y a eu des cas qui ont été amenés ici en Europe et aussi des parents, la famille, des personnes qui malheureusement étaient malades ou en fin de vie, mais toujours branchées aux machines, ne pouvaient pas faire rien pour leur chair. Car effectivement, on n'a pas ces droits en Italie non plus. Donc la discussion est encore très très ouverte et il y a justement des représentants du parti radical, dont notamment Emma Bonino, qui se bat encore en faveur de l'euthanasie. Mais là-dessus, on n'avance pas au niveau de loi.
Alors, dans le chapitre que vous avez écrit dans ce livre, donc l'athéisme dans le monde, qui s'intitule donc Pourquoi l'Italie n'est pas faite pour les athées, vous expliquez qu'il y a quand même eu un changement au niveau historique. Il y a un moment où il y avait des athées, et puis après que la religion catholique a pris le dessus. Et d'ailleurs, vous avez aussi écrit un article récemment dans un autre ouvrage où vous dites que l'immigration italienne en Belgique est arrivée, par exemple, avec des convictions très laïques et des convictions anticléricales fortes. Ça veut dire que quand même, il y a une partie de la population italienne à une certaine époque qui s'affichait comme laïque, anticléricale, voire athée.
Tout à fait. Donc, il faut préciser que dans cet article de cet ouvrage collectif dirigé par Anne Morelli, il est question de l'immigration de l'entre-deux-guerres, donc non de l'immigration ouvrière d'après la Deuxième Guerre mondiale. Et lorsque de part d'entre-deux-guerres, on retourne au fascisme, et donc les Italiens qui s'exilent pendant cette période sont souvent des antifascistes. Or, antifasciste veut dire aussi communiste, socialiste, anarchiste, et pendant cette époque-là, surtout anticléricaux. Donc il s'agissait de persécutés politiques qui ont trouvé refuge en Belgique. Et dans certains cas, ces persécutés n'étaient pas seulement des anticléricaux, mais étaient aussi des activistes laïcs, sinon francs-maçons. Donc il faut savoir que depuis la fin du XIXe siècle, une fédération de la libre pensée et une association maçonnique existaient au niveau international et que la Belgique y jouait un rôle moteur. En s'exilant en Belgique, ces persécutés qui prêchaient par contre la liberté des pensées et donc qui étaient d'une certaine manière libres et persécutés, comme je l'ai défini dans mon livre qui vient de paraître chez les éditions Garnier, trouvent un terrain compatible et favorable à leur manière de penser. Mais surtout, ils trouvent de l'aide grâce aux contacts qu'ils établissent avec des libres penseurs et des francs-maçons belges.
D'accord. Donc, effectivement, on voit qu'il y a effectivement cet anticléricalisme, cet athéisme qui est présent quand même et qui est du coup toujours présent dans une partie de la population italienne toujours aujourd'hui. On a quand même des descendants de ces personnes qui vivent toujours en Italie.
Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Seulement, la situation politique a tellement changé depuis le fascisme qu'on a fondamentalement oublié ce qui existait avant les fascistes. C'est ça, les fascismes, c'est ça, les côtés tristes un peu de l'histoire contemporaine italienne.
Alors, on arrive déjà à la dernière partie de cette émission et je voudrais quand même qu'on aborde un point essentiel, c'est l'athéisme, la situation de l'athéisme dans les pays majoritairement musulmans. Alors, on sait que c'est très difficile aujourd'hui dans certains pays de se déclarer athée, agnostique ou d'être tout simplement un peu critique par rapport à la religion musulmane dans certains pays. Est-ce qu'il y a des pays qui sont particulièrement compliqués à ce niveau-là et où la situation est vraiment difficile, Patrice Hertevel?
Oui, tout ce qu'on appelle l'ensemble arabe. Mais au fond, il y a aussi que cette question d'athéisme en islam est un cas tout à fait typique et intéressant, et aussi de l'interaction avec d'autres problèmes. On ne va pas remonter au Moyen-Âge, ce n'est pas nécessaire. Mais il y a, à partir de la dernière partie du XIXe siècle, et même un tout petit peu avant, il y a un mouvement moderniste en islam. Dire qu'il est athée, c'est parfois un petit peu exagéré, mais en tout cas, il est certainement moderniste, anticlérical, et parfois un peu plus, et effectivement. Ce mouvement va s'éteindre dans les années 50-60. Il s'éteint pourquoi ? Ah ben à cause des problèmes géopolitiques. Que ce soit en Égypte, c'est le pays clé pour toutes ces questions historiquement, c'est l'Égypte. Eh bien, la question des tension due à la situation politique fait que Nasser, qui n'est absolument pas prédestiné, pourtant au contraire, il fait la guerre contre les frères musulmans. Au départ, il y a un discours de lui qui est sur YouTube et dont tout le monde connaît, où il se moque, il fait rire la salle aux dépens des frères musulmans. Et ça n'empêche que finalement, la situation tourne. Parce que il est politiquement isolé, notamment à cause de l'attitude des États-Unis, de la France et de l'Angleterre. Il est relativement isolé et il finit par prendre des mesures, pas suffisamment, puisque au fond le début de l'apparition en force des islamistes, au fond, on le date de l'assassinat d'Anwar el-Sadat par les frères musulmans. Ça va leur coûter cher cette histoire. Et au fond, Saddam Hussein et Hafez el-Assad père sont un peu dans la même situation. Ce ne sont sûrement pas des religieux. Je n'ai pas dit que ce sont des athées, mais ce ne sont sûrement pas des religieux. Mais voilà, les pressions politiques font qu'ils donnent de plus en plus de gages, aux frères musulmans et à d'autres, notamment parce qu'ils sont terriblement isolés au plan international et qu'il faut bien qu'ils trouvent des forces, effectivement. Alors, ce qui se passe depuis un petit nombre d'années est tout à fait différent et c'est là aussi un phénomène externe qui se passe. C'est simplement Internet.
Oui, alors, c'est des gens qui, sur Internet, expriment leurs idées, leurs opinions.
Les gens étaient extrêmement isolés. Il fallait passer par l'imprimerie, mais l'imprimerie, c'est plus cher et c'est plus contrôlé. L'imprimerie n'est que rarement un fait individuel. Il faut passer par un éditeur, le plus souvent. Il faut pouvoir engager la mise de l'impression, etc. Aujourd'hui, tout ça est fini. C'est fini et ils se retrouvent en réalité devant des tas de ce sont des jeunes, comme par hasard bien entendu, ils se retrouvent devant des jeunes qui mettent sur leur site, sur leur blog, qui mettent des déclarations au minimum très critiques à l'égard de la religion, soit la religion telle qu'elle, des institutions religieuses, soit même des choses plus fondamentales du Coran, etc., et qui peuvent être carrément athées. La proportion, par exemple, en Arabie Saoudite même, de gens qui se déclarent tout à fait croyants n'est pas aussi élevée qu'on ne le pense. Hein. Elle ne dépasse pas 85% en réalité. Donc les autres, les 15% ne sont pas obligatoirement athées. Mais il y en a plus de 10% qui se déclarent non religieux. Ça prouve qu'il y a un malaise qui s'installe et qu'il y a une critique sans comparaison avec ce qui se passait il y a 20 ou 30 ans dans les pays traditionnellement et majoritairement musulmans. Ceci étant dit, il y a des nuances. L'islam est pratiqué dans des dizaines de pays à des milliers de kilomètres de distance. La situation de l'Arabie ou du Maghreb n'est pas celle de l'Indonésie. Cette partie-là du monde n'a pas toujours les habitudes d'intolérance, fort heureusement. Et les traditions ne sont pas les mêmes. Elles ne sont pas les mêmes non plus, puisque l'Indonésie était jusque dans les années 60 un grand pays communiste.
D'ailleurs, j'en profite pour rappeler par exemple qu'au Bangladesh, 5 blogueurs ont été tués l'année passée, blogueurs, éditeurs ont été tués à cause de cet athéisme, parce qu'ils osaient se déclarer athées, libres penseurs. D'ailleurs, sur ce sujet, si cette thématique vous intéresse, je vous invite à retrouver sur notre site internet www.libreensemble.be une émission télé que nous avions consacrée à ce sujet, où on avait rencontré 3 blogueurs bangladais qui étaient réfugiés ici en Europe. Alors, on arrive déjà à la fin de cette émission. Alors, on pourrait évidemment continuer à parler pendant des heures parce qu'évidemment, on l'a dit, chaque continent revêt des situations totalement différentes. Mais donc, si cette thématique vous intéresse, je vous invite à lire l'ouvrage « L'athéisme dans le monde » qu'on peut se procurer. Comment, Patrice d'Hertevelle ?
Il peut être commandé dans toutes les librairies. Nous avons un système de distribution.
Et sur le site aussi de là-bas, donc l'association belge
athée.info.
Ok, et Nicoletta Cassano, vous aussi, vous avez un ouvrage qui est sorti récemment, peut-être juste donner le titre. Donc, c'est Libre et persécuté, franc-maçon et laïc italien en exil pendant le fascisme. Donc, c'est un ouvrage qui a été publié chez Classique Garnier. Voilà, merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour un nouveau rendez-vous de la laïcité. Belle soirée à tous. United Nations.